Je veux vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14. Nous ne lirons pas tout ce chapitre. Normalement, il faudrait lire le chapitre 14 et puis versets 15 à 24, mais on va lire ici qu'un verset. Voilà, il s'agit ici de l'invitation au festin. Et le Seigneur a lancé une invitation et ceux qui étaient invités ne sont pas venus. Et puis il va dire, alors, verset 21. À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amen. » Je vais vous inviter à ouvrir avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Prophétie concernant le serviteur de l'Éternel, et nous savons que le serviteur par excellence, c'est Jésus. Et ce serviteur par excellence, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il est au milieu de nous, hein, et il est là pour accomplir les prophéties qui le concernent. Alléluia. Il dit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne se fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Amen. Il ne brise pas le roseau cassé et n'éteint pas la mèche qui fume encore. Alléluia. Et je vais vous inviter pour lire un dernier passage, chapitre 4 de Jean. Nous n'allons pas lire tout ce chapitre 4, il faudrait le lire en entier. Hein, chapitre 4, il nous parle donc de la rencontre d'une femme samaritaine avec le Seigneur. Ben, je voudrais vous inviter à lire à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec cette femme ?» Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie ?» Et ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson ou qui déjà blanchissent pour la moisson. Oui, qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. » Nous avons lu dans Luc chapitre 14 ceux qui sont invités. Et ici, il nous est dit dans ce passage que, quand nous lisons à partir du verset premier que Jésus partait de Jérusalem vers la Galilée. Ça fait environ un peu plus de 120 kilomètres à pied. Voilà. Ça fait un peu, ouais, Toulouse-Saint-Puy, voilà. À peu près ça. Voilà, à pied. Alors, je ne sais pas combien ça donnerait en jour, mais sur ce parcours, eh bien, bien que la Galilée soit l'objectif final pour le Seigneur, il a prévu sur son parcours un arrêt. Il dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est-à-dire que c'est un impératif, c'est une nécessité. Et pourquoi donc fallait-il qu'il passe par la Samarie? Pourquoi donc fallait-il qu'il passe par Toulouse? Parce que c'est un impératif. Parce que c'est une nécessité. Et je voulais dire ici que cette femme que le Seigneur va rencontrer, elle ne sait pas qu'elle va rencontrer le Seigneur. Elle vient là à ce puits comme elle vient tous les jours. De la manière à ce que personne ne puisse la rencontrer. Parce que lorsqu'on lit le texte et le contexte, c'est un peu comme quelqu'un qui est indésirable. L'objet de discussion, elle a eu 5 maris et celui avec qui elle vit actuellement, ce n'est pas son mari. Vous voyez? C'est pour dire qu'on n'a rien inventé aujourd'hui au niveau de la vie des hommes. Hein? Voilà. Cette femme, déjà, elle a déjà fait un record. Hein? 5 maris, et puis en plus, là, elle vit avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. Hein? Donc, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Hein? Voilà. Ce qui s'est passé à l'époque, ça se passe encore aujourd'hui. Mais ce que je veux attirer notre attention, c'est que, justement, le Seigneur, il fallait qu'il passe par là parce qu'il a rendez-vous avec cette femme. Voyez? Cette femme ne sait pas, mais le Seigneur lui a fixé rendez-vous. Je pense que vous savez que quand vous êtes venu, c'est parce que le Seigneur vous a fixé rendez-vous ici. Amen. Oui. Le frère l'a dit tout à l'heure. Et ce qui fait l'importance d'une rencontre, d'un rendez-vous, il y a plusieurs choses hein, qui rentrent en ligne de compte dans un rendez-vous, dans l'importance d'un rendez-vous ou d'une rencontre. Soit parce que nous passons par une situation grave et qu'on va rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous aider à sortir de cette situation. Donc pour nous, c'est important de ne pas louper ce rendez-vous parce que louper ce rendez-vous, eh bien, on va passer à côté de la solution qui peut être apporté à notre situation. Hein? Et puis, il y a aussi l'importance de rendez-vous, c'est la personne qui nous pose rendez-vous. Voyez? Voilà. Et à plus forte raison quand c'est le Seigneur du ciel et de la terre qui nous pose rendez-vous. Parce que si le roi des rois nous pose un rendez-vous, c'est que vraiment c'est important. Hein? Imaginons que le président de la République nous pose rendez-vous à l'Élysée. Je pense qu'on va faire tout ce qui est nécessaire pour être présent au rendez-vous, parce que si le président de la République m'invite, moi qui suis vraiment rien, je ne suis même pas un parlementaire, encore moins un conseiller municipal, je suis un citoyen lambda. Mais s'il me pose rendez-vous, c'est qu'il y a certainement quelque chose d'important à me dire. Voilà. Et j'ose espérer, mes frères et sœurs, que et vous qui êtes là, que lorsque vous venez ici cet après-midi, eh bien, que nous soyons conscients que le Seigneur, il est là et il a quelque chose à me dire. Voyez? Parce que si le Seigneur ici, il a fait tout ce parcours, 60 kilomètres à peu près, à pied, c'est que il voulait absolument rencontrer cette femme. Et c'est une femme qui a l'habitude de venir au puits tous les jours à midi. Voyez? Et je voudrais faire un petit parallèle, mais sans vouloir vous offenser, frères et sœurs. Nous avons l'habitude de venir ici dans cette salle. Et j'ose espérer que nous ne venons pas cet après-midi par habitude. Mais qu'on vient en raison du fait qu'on a envie que le Seigneur se révèle à nous. Même si on n'a pas de besoin particulier, mais je crois que le Seigneur connaît au-delà de ce que nous pouvons penser avoir besoin ou pas besoin. Parce que notre Dieu connaît les jours d'hier, il connaît les jours d'aujourd'hui, mais il connaît aussi les jours qui sont devant nous. Hein? Et il est fort possible que la parole que Dieu va nous donner cet après-midi, ce n'est pas pour l'instant présent, mais c'est pour dans les jours qui viennent. Et justement, dans ce texte, dans ce que nous avons lu, il va dire aux disciples, regardez la moisson. Et quand vous regardez la moisson, vous dites, il y a encore 4 mois. Vous regardez les champs, vous dites, dans 4 mois, ce sera bon pour la moisson. Voilà, moi je ne suis pas agriculteur, mais je vois là-bas dans le Gers, je suis sûr que les agriculteurs, quand ils regardent le champ de blé, le champ de maïs ou quoi, ils savent que ça va être mûr dans tant de temps. Moi, je ne le sais pas. Et il dit, mais moi je vous dis que c'est maintenant le temps de la moisson. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de la moisson? Et de quelle moisson il parle? Et je voudrais nous interpeller sur le fait que le temps de la moisson, c'est le dernier moment en ce qui concerne la période agricole. Quand on fait la moisson, c'est pour rentrer la récolte avant le mauvais temps. Hein? Et lorsque nous regardons la parole, nous comprenons, et c'est ce quoi aussi je veux vous interpeller, sur le fait que ici, le Seigneur il dit, c'est maintenant le temps de la moisson. C'est-à-dire que maintenant, le compte à rebours a commencé. C'est urgent. C'est important. Et je vois dans le Gers, quand c'est le temps de la moisson, jusqu'à parfois 1h, 2h du matin, les machines elles sont là, et elles travaillent, je pense qu'ils doivent faire des roulements, les chauffeurs, parce que l'objectif est de rentrer la moisson avant le mauvais temps, sinon ça va être perdu. Et je crois qu'ici le Seigneur nous interpelle sur une chose, c'est que lorsqu'il est venu, il est venu non seulement ouvrir un temps de grâce, mais il est venu ouvrir le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et lorsque nous lisons les écrits de Paul, par exemple, on réalise que pour Paul, c'est bientôt la fin. Pour lui, ce n'est pas dans 1000 ans ou dans 2000 ans, mais au moment où il prêche la parole, c'est important que les hommes se tournent vers Dieu, se réconcilient avec Dieu, parce que c'est bientôt la fin. C'est ce qu'il comprend dans le message de Christ. Mais ça fait 2000 ans que le Seigneur il a dit ça. Voyez? Mais vous savez comme moi que pour le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. voyez? Parce que lui, il vit dans l'éternité. Nous, nous sommes conditionnés par le temps, mais lui ne l'est pas. Et lorsque nous regardons l'histoire du monde et la période actuelle, nous voyons que nous sommes dans les temps de la fin. Parce que ce qui est écrit, vous regarderez Matthieu chapitre 24, 25, etc., ce qui est écrit est en train de se réaliser sous nos yeux. Il n'y a pas un jour où nous n'entendons pas des bruits de guerre, des famines, des bouleversements mondiaux, des mauvaises nouvelles. Nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles, etc. Et on dirait qu'il n'y a que ça. Ceux qui achètent les journaux, ce n'est pas pour les bonnes nouvelles, c'est pour savoir quelle est la mauvaise nouvelle du jour. Nous sommes dans le temps de la fin. Et c'est vrai que ce temps de la fin nous parle autant de l'enlèvement de l'Église. Et il est important que l'Église soit prête avant l'enlèvement. Parce que lorsque l'enlèvement sera fait, c'est trop tard après. Il est arrivé une fois, lorsque je travaillais, je devais prendre l'avion pour faire presque 300 kilomètres, 260 pour être plus exact, et pour un rendez-vous dans la capitale. Et quand je suis arrivé avec ma voiture à l'aérogare, l'avion sort de l'aérogare pour se mettre sur la piste, c'est trop tard. Voyez? Donc j'ai dû faire les 260 km en voiture. Parce que je ne pouvais pas louper ce rendez-vous. Et je ne voulais pas louper ce rendez-vous. Mes frères et sœurs, vous qui connaissez la parole de Dieu, est-ce que vous pouvez dire avec certitude cet après-midi que si le Seigneur enlevait l'Église en ce moment même où nous sommes ici, avez-vous votre place? Êtes-vous sûr de faire partie de ceux qui seront enlevés? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Mais je voudrais nous interpeller parce que je crois qu'au temps de l'enlèvement, il risque d'y avoir des surprises. Peut-être dû au fait qu'on a l'habitude, comme cette femme, de venir au puits. Le puits, c'est le puits de Jacob, le puits de la tradition. Le puits qu'on a l'habitude depuis des temps de venir puiser, etc. Et ça peut être comme ça aussi. Les réunions, on a l'habitude de venir le mardi, le jeudi, le dimanche, la réunion de jeunesse, etc. Mais est-ce que je suis prêt au fait? Est-ce que si le Seigneur venait dans quelques secondes enlever l'Église, est-ce que je vais faire partie de ceux, de cette moisson qui va être engrangée? C'est pour cela qu'il est urgent. Il faut y penser. Il faut se préparer. Que ce soit de jour ou de nuit, il faut toujours être prêt. Je vous parle de cette rencontre entre cette femme et le Seigneur parce que lorsque nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que dans l'histoire du festin, le maître, il invite les boiteux, les estropiés, les aveugles, que sais-je encore? Oui, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, etc. Mais ça parle de qui ça? Ça ne parle pas obligatoirement de ceux qui le sont physiquement. Mais ça parle beaucoup plus de cet aspect spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Un pauvre, c'est celui qui est démuni de l'essentiel à qui il manque. Est-ce qu'il ne te manque pas l'essentiel? Tu as peut-être tout, mais peut-être qu'il te manque l'essentiel. Les estropiés, c'est celui à qui il manque un membre. Vous voyez? Un estropié, il manque un membre. L'aveugle, c'est celui qui a perdu la vue, la vision. Il ne peut plus voir. Le boiteux, c'est celui qui marche clopin-clopant, voilà, un coup sur l'autre pied, un coup sur l'autre. Et tout ça, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du fait qu'il manque à l'homme quelque chose qui est essentiel, eh bien, son comportement va être en fonction de son handicap. Je pense que vous comprenez cela. Et ce que nous voyons dans le monde qui se passe sous nos yeux, c'est parce que justement, il manque l'essentiel. Et lorsque le maître invite, il nous parle du Seigneur qui invite les malades, et lui-même il dira, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Voilà. Et si nous faisons rapidement un examen de nous-mêmes devant Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une partie de ma vie qui est malade et qui a besoin de l'intervention du Seigneur? J'ai vu il y a quelques années un homme qui conduisait une grosse machine, mais il était estropié, il n'a qu'un pied. Il conduisait même une voiture, un pick-up, mais il n'avait qu'un pied. Et j'avais de l'admiration pour cet homme parce qu'il est arrivé à compenser son handicap. Il a ouvert des routes, etc. Il arrive à... Voilà. Parfois, on essaie de couvrir notre handicap. Mais la meilleure des choses, c'est de livrer notre handicap à Dieu. Est-ce que cette femme n'était pas handicapée? Est-ce qu'elle n'était pas pauvre, cette femme? Ne serait-elle pas aveugle, cette femme? Eh bien, finalement, quand on regarde de près, on se rend compte que si, elle est dans ces critères-là. Lorsque le Seigneur était devant elle, il a dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu vas lui demander toi-même à boire. Le Seigneur est devant cette femme et elle attend le Messie, mais elle ne reconnaît pas que c'est lui le Messie. Voyez? Cette femme, il lui manque quelque chose. Elle a vécu avec 5 maris et maintenant, finalement, elle ne veut plus se marier, elle vit avec quelqu'un. Ça montre une vie où il manque quelque chose. Il manque l'essentiel. Et pourtant, cette femme, elle dit, vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Mais nous, on a un temple ici, sur le mont Garizim. Et Jésus va lui dire, ce n'est plus à Jérusalem ou sur cette montagne qu'il faut adorer. Je dirais même, pas obligatoirement besoin d'une salle pour adorer, mais là où nous sommes, sur la route, dans notre voiture, sur notre lieu de travail. Et béni soit Dieu, de ce que là où nous sommes, nous pouvons élever librement la voix vers Dieu. Mais il dit, parce que ce sont là les adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ça aussi la marque qu'il y a sur cette femme. Lorsque le Seigneur va lui dire, elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Et le Seigneur va lui dire, ben, va chercher ton mari et puis viens ici. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Voyez, elle est sincère, elle lui dit la vérité. Et c'est ça la clé. Du fait qu'elle dit la vérité, eh bien, au sortir de cette rencontre, de ce rendez-vous, le monde change pour elle. Sa vie change. Elle n'est plus conditionnée par les gens du village, mais c'est elle qui va amener tout un village à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Tout cela, Parce que cette femme, en venant au puits, et que là, ayant rencontré le Seigneur et ayant connu qu'il est le Messie, parce qu'il va dire, je suis moi le Messie que tu attends. Eh bien, quand elle est repartie, ce n'est plus la même femme. Frères et sœurs, je voudrais qu'en repartant de ce lieu, il y ait vraiment un changement. J'ai besoin de changement. Vous avez besoin de changement. Nous avons besoin de changement. Mais dans la mesure où nous sommes vrais avec Dieu. Dans cette histoire, j'ai parlé tout à l'heure du trajet, voyez, pour montrer combien, pour le Seigneur, cette femme est importante. Voyez, vous êtes important pour Dieu. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Nous sommes tous importants. Depuis celui qui est au sommet de la société, si on peut dire comme ça, par rapport aux critères de bien, etc., avec celui qui est dans le fossé, qui est vraiment démuni, le Seigneur nous aime tous de la même manière. Et il veut que tous parviennent à la repentance qui se trouve en Jésus. Est-ce que nous allons repartir de ce lieu comme nous sommes entrés et puis continuer comme si de rien n'était? Ou bien est-ce que nous allons nous laisser interpeller par la parole de Dieu et dire, il faut que je change? Il faut qu'il y ait ce changement dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus venir comme une habitude. Mais je veux puiser de cette eau qui est en toi et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Parce que l'eau que le Seigneur donne, c'est l'eau de la vie. Parce qu'il est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Oui. Ce trajet nous parle aussi du chemin que le Seigneur a parcouru du ciel jusqu'à nous. Il est venu pour nous rencontrer. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Hein? Comme un simple serviteur. Il n'est pas venu avec toute sa puissance, son autorité, son pouvoir, etc. Mais il est venu comme un simple homme. Il est né comme un simple homme. Il a grandi comme chacun d'entre nous. Jusqu'à ce qu'il exerce son ministère et qu'il donne sa vie à la croix. Il s'est mis dans la condition de l'homme afin de porter nos péchés, nos iniquités à la croix. Afin que vous et moi, lorsque nous reconnaissons que Christ a accompli l'œuvre qui nous est nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu et que nous nous repentions, eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Es-tu réconcilié avec Dieu? Es-tu sûr que... Parce que lorsque le Seigneur va revenir, il ne reprend que ceux qui se sont réconciliés avec lui. Es-tu sûr que tu es réconcilié avec Dieu? Es-tu sûr que tu as mis en ordre ta vie face à Dieu? Es-tu sûr que lorsque tu franchis le seuil de cette maison, de cette porte, et que si là sur la route il y a quelque chose qui se passe, tu entres dans l'éternité avec Dieu? Ça, c'est une bonne question, ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Alors si tu es prêt, béni soit le Seigneur, reste prêt. Travaille à ton salut. Mais si tu ne l'es pas, ce n'est pas demain. Ne pense pas, tout à l'heure je vais avoir le temps. Demain, ici il y en a qui ont renvoyé, ils ont dit, non j'ai un champ, il faut que j'aille voir. Non j'ai, combien, 5 paires de tracteurs. Voilà, 5 paires de bœufs ou 5 tracteurs, il faut que j'aille les essayer. Ou je viens de me marier. Mais c'est là quand ils vont passer devant Dieu. L'instant, j'aime toujours dire, l'instant dont nous disposons, c'est maintenant. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire endurcir son cœur? C'est que quand on sait que Dieu nous parle, et qu'on fait la sourde oreille. Voyez? Ou qu'on envoie sur la touche, dans le corner, on remet au lendemain, on est en train d'endurcir son cœur. On peut se dire, oui, je suis jeune encore. J'ai du temps. Quand je vois M. Kateko, quand je... bien d'autres, j'ai encore des années devant moi. Ouais, sauf que tu ne disposes pas de l'instant où Dieu te rappelle. C'est ça. Et ce que Dieu nous appelle, c'est à être prêt. Voilà. Jésus dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes à la repentance, mais pour appeler des pécheurs à changer de vie. Voilà. Appeler des pécheurs à la repentance. Alléluia. La repentance est le seul chemin, la seule condition pour être au rendez-vous, faire partie de la bonne récolte.